une école pour la vie. L'émission de Radio Grand Ciel qui vous parle de l'actualité de l'enseignement catholique d'Eure-et-Loire, animée et réalisée par
Anne-Sophie Chauveau,
Corinne Vivier
et Jean Bourriou, votre serviteur. Bonjour à tous. Alors, Corinne, aujourd'hui, au sommaire de notre émission.
Une émission consacrée exclusivement à l'école inclusive, animée exceptionnellement aujourd'hui par Anne-Sophie Chauveau, en présence de Madame Quin, comme invitée, adjointe au directeur diocésain, Madame Marcadon, enseignante, et Madame Bazin, AEVS. Aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est l'école inclusive. Autour de la table, trois invités avec nous. Madame Quinte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc adjointe du directeur diocésain.
C'est bien cela.
Madame Marcadon, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous donner votre mission dans l'enseignement catholique?
Je suis enseignante au sein du dispositif Ulysse à l'école Saint-Ferdinand, sur Chartres.
Merci. Et Madame Bazin, vous accompagnez des enfants en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quelle école vous êtes?
Au collège Saint-Jacques-de-Compostelle, à Minières.
Merci. Alors, permettre à l'école d'être pleinement inclusive, c'est une volonté politique, hein, notre président de la République, et c'est surtout une priorité de son quinquennat.
Tout à fait. Par contre, je pense qu'il est important pour nos auditeurs de bien percevoir que l'enseignement catholique n'a pas attendu cette circulaire pour la rentrée 2019 concernant cette école inclusive, mais que depuis longtemps, depuis toujours, cette mission d'accueil des plus fragiles est à l'œuvre dans nos établissements pour les enseignants, pour les membres de la communauté. L'accueil de tous, y compris de ceux qui ont le plus de difficultés ou qui ont des fragilités, comme on dirait aujourd'hui, non pas par obligation du contrat d'association avec l'État, ce qui nous entraînerait de mettre en œuvre cette circulaire, mais par le choix, la mission de promouvoir et de partager la parole de vie, l'Évangile, auprès de tous sans distinction.
Oui, là, en fait, on relie nos convictions.
Tout à fait. Et les convictions vont irriguer nos actions. Et c'est pour cela qu'accueillir celui qui frappe à nos portes, lui faire place et répondre à ses besoins, c'est œuvrer en donnant sens, pleinement sens à nos actions. Cela me renvoie véritablement à la parole de Matthieu chapitre 25. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et c'est faire le choix, au niveau de l'enseignement catholique, de développer, de prendre en considération l'intégralité de la personne, en menant chacun à sa propre excellence.
Bien évidemment, puisqu'on va parler ensuite, on va rentrer dans le sujet et développer tout ce qui est dispositif et accompagnement. On sent effectivement qu'il y a effectivement nécessité d'accompagner ces familles, de les écouter. Il y a de vraies souffrances, en fait. Les parents sont inquiets, donc c'est d'autant plus important. Pour entrer dans le sujet, on va ajouter que la scolarisation de qualité doit être donnée à tous les élèves, hein, de la maternelle jusqu'au lycée, en prenant compte évidemment de leur singularité, de leurs besoins éducatifs particuliers. Et la spécificité, c'est l'engagement, hein, conjoint des différents partenaires, donc l'État, les collectivités territoriales, les associations de parents d'élèves et bien sûr l'école, hein, pour réussir effectivement, je dirais, tout cet accompagnement. Madame Quinte, est-ce que vous pouvez nous dire exactement comment ça s'organise justement dans l'enseignement catholique, mais plus concrètement au niveau, je dirais, vous, de votre responsabilité?
Alors, il faut savoir que cette volonté d'accueillir le plus grand nombre et quelle que soit ses fragilités ou non-fragilités d'ailleurs, cela s'organise et cela se pense d'abord au préalable. Donc nous avons ici au niveau du diocèse une commission de réflexion qu'on appelle Besoins éducatifs particuliers 28 et dans cette commission il y a l'ensemble des partenaires que vous venez de citer, des enseignants, des chefs d'établissement, du premier, du second degré, des parents, psychologues et d'autres partenaires qui vont travailler ensemble à partir de projets et on vérifie que cette mise en œuvre est en adéquation avec les besoins du terrain et également en adéquation avec le travail au quotidien des différents partenaires. Et c'est comme cela que depuis un certain nombre d'années, au moins 4-5 ans, nous ouvrons de plus en plus de dispositifs. Nous avons ainsi pu avoir un collège entier pour les jeunes en difficulté d'ECPA, enseignement général et professionnel adapté de 6e à 3e sur le collège Saint-Pierre-Saint-Paul de Dreux. Nous avons la même chose mais 5e, 4e, 3e au Château des Vaux. Au niveau SECPA, voilà, et nous développons maintenant énormément les dispositifs ULIS, Unité Localisée d'Inclusion Scolaire, qui concernent les écoles, les collèges et les lycées.
Donc là aussi, sur ces dispositifs ULIS, plusieurs pôles sont répartis sur le territoire Eure-et-Loire.
En fait. Oui, tout à fait. Deux ULIS écoles, une à Saint-Ferdinand-Chartres, une autre qui vient d'ouvrir à Châteaudun, école Saint-Joseph-Sainte-Cécile, deux ULIS collèges, une donc à Saint-Jacques, collège Saint-Jacques-de-Minière, et l'autre à Delfeuil, nos gens le retrouvent. Et dans les projets, il y a une volonté, donc le projet va être travaillé cette année, d'une ULIS école dans le bassin du nord de l'Eure-et-Loire, et d'une ULIS pro plutôt vers les lycées professionnels.
Merci Madame Quint. Alors en ce qui concerne, je dirais concrètement le dispositif ULIS dans une école, Madame Bazin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, vous, comment vous pouvez accompagner les élèves qui sont en situation de handicap ?
Alors oui, moi je suis donc accompagnatrice du dispositif ULIS depuis 3 ans au collège Saint-Jacques-de-Compostelle. Actuellement, on a 5 élèves qui ont une notification. Moi, mes journées types sont, je vais dans les classes, j'accompagne les élèves, donc j'aide à l'écriture selon l'handicap que peut avoir l'élève. On aide à la mémorisation, à reformuler, à la traduction.
Alors reformuler, on peut expliquer, c'est en fait réexpliquer les consignes.
Voilà, on va les expliquer de façon plus simple, avec des mots adaptés, quelquefois en donnant des images pour qu'ils puissent visualiser selon l'élève à leur manière la consigne. On va adapter l'exercice. Souvent, c'est un travail avec l'enseignant au préalable. Après, avec 3 ans d'ancienneté, je commence à connaître les programmes. Donc, on peut anticiper en technologie, par exemple, une matière. Et on sait que là, il y a un travail de préparation avant la séquence. Donc, au dispositif, tous les mercredis matins, je suis au dispositif pour de l'aide aux devoirs. Pendant cette aide aux devoirs, j'ai 4 heures avec les élèves. Et si un projet arrive sur la prochaine séquence, je peux préparer, faire des recherches, des images, les faire rechercher sur les ordinateurs pour qu'ils puissent déjà connaître le vocabulaire de la séquence qui va arriver, en fait.
Donc, il y a tout un travail de préparation à faire en amont.
Oui.
Alors, vous parliez de dispositif ULIS. Ça veut dire que vous avez donc les 5 jeunes dont vous avez la charge de l'accompagnement. Est-ce que ces 5 jeunes, vous les avez en permanence dans une classe ?
Non. C'est des jeunes qui appartiennent à une classe. Le dispositif n'est absolument pas une classe. Il y a 2 élèves de 6e qui appartiennent à leur classe. Il y a certaines matières, souvent les matières, le français, les mathématiques, quelquefois l'histoire-géographie, mais c'est vraiment axé sur le français et les mathématiques. Ils ont un niveau de cycle 3 Et en fait, ils ne peuvent pas suivre au sein de leur classe d'une façon positive. Donc, ils sont en situation, on va dire, de handicap. Et à ce moment-là, ils sont sortis de leur classe pour être au dispositif avec l'enseignante référente, Madame Aubert.
Donc, en fait, il y a un va-et-vient dans oui. votre classe. Vous êtes au service de ces élèves ponctuellement, en fonction de leurs besoins et surtout de leur emploi du temps.
Oui, toutes les semaines, on revoit notre...
Et c'est ça la nouveauté, Madame Quint, de ce dispositif.
Le terme de dispositif, vous l'avez tout à fait ciblé. C'est un maillon d'une chaîne, mais ce maillon est ouvert. Et cela permet aux jeunes de ne pas être dans une classe, mais d'être de leur classe, souvent par rapport à leur niveau d'âge, et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé par rapport à leurs difficultés, notamment dans leurs connaissances et compétences. Et ils viennent dans ces cas-là, dans le dispositif.
Après une courte pause, nous reprenons notre émission où nous sommes en train de parler du dispositif Ulysse avec Madame Bazin, Madame Quint et Madame Marcadon, hein, qui sont nos intervenantes aujourd'hui pour une école pour la vie. Alors justement, ce dispositif qui est dans une classe, on va dire, un peu spécialisée, mais qui est dans un collège ordinaire, en somme.
Dans un établissement ordinaire. Oui, voilà. Enfin, ordinaire. Dans un établissement scolaire. École. Collège ou lycée. On peut dire que c'est un local qui est ouvert et dans ce local, il y a la participation d'une enseignante spécialisée et d'un accompagnant pour les élèves lorsqu'ils vont dans leur classe. Et c'est ouvert. Voilà. En fait, le jeune va bénéficier de l'accompagnement de l'enseignant du dispositif selon ses propres besoins.
Alors, vous nous avez parlé à peu près d'horaires. Vous avez une enveloppe horaire de combien d'heures par semaine à peu près pour ces élèves ?
Moi, je suis 24 heures semaine avec ces élèves. Donc, on essaye de partager afin que je sois
c'est mutualisé.
Sur tous les niveaux, oui.
Très bien. Et en ce qui concerne Madame Marcadon, vous êtes sur l'école Saint-Ferdinand. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment s'articulent vos journées au niveau de l'accueil de vos élèves ?
Alors, une journée en dispositif Ulysse, c'est une journée comme d'une classe ordinaire. Tout simplement, les élèves arrivent le matin à 8h30. De 8h30 à 9h, ils montent directement dans leur classe ordinaire. Donc, à ce jour, les élèves sont en CP, CE2, CM1. Donc, ils vont dans leur classe ordinaire. Dans cette classe, tous organisent les rituels du matin. Donc, ils participent aux rituels du matin. Et dès à peu près 9h, ils reviennent dans le dispositif Ulysse. Pourquoi 9h ? C'est que tout simplement, la plupart des enseignants travaillent les maths et le français le matin. Donc, comme ces élèves, justement, sont en, comment dire, au niveau des apprentissages, ils sont au-dessus de ces apprentissages du niveau scolaire dont ils appartiennent. Donc, ils viennent en Ulysse. Donc, en Ulysse, de 9h à midi, ils sont avec moi. Et l'après-midi, c'est suivant leur emploi du temps. Donc, je vais prendre par exemple le cas de Loïc. Donc, Loïc vient à l'école le matin à 8h30. 8h30, 9h, il est en classe de CM1. De 9h à midi, il est avec moi dans le dispositif Ulysse, où je travaille les mathématiques et le français avec lui par rapport à son projet que nous avons mis en place avec la famille, l'enseignante et moi-même. Et l'après-midi, ben Loïc, ça dépend. Donc, s'il a questionné le monde dans sa classe, il ira dans sa classe pour tout ce qui est histoire, sciences et géographie. Lorsqu'il y a de l'anglais, bien évidemment, ils ne vont pas en anglais, donc ils reviennent dans le dispositif Ulysse, où on retravaille encore souvent les apprentissages fondamentaux, soit les maths, soit le français, mais surtout par manipulation. Le sport, la musique, les arts visuels, bien évidemment, ils sont dans leur classe ordinaire.
Oui, ils participent vraiment au temps classe avec les camarades.
Il est très important qu'ils participent, oui. Parce qu'un enfant du dispositif Ulysse est amené à vivre en société, il est amené à vivre en groupe. Ce n'est pas un groupe de 5-6 élèves en Ulysse, puisque nous, à Saint-Ferdinand, à ce jour, nous avons 9 élèves dans le dispositif. Ce n'est pas un groupe 9, oui, peut-être, mais ce n'est pas un grand groupe. Donc, il est très important que les élèves Ulysse restent dans leur classe ordinaire.
Au niveau de l'accompagnement des familles, comment vous arrivez justement à faire l'approche pour effectivement expliquer aux familles qu'on propose cet accompagnement?
Alors les familles sont partie prenante. Tous les élèves que nous avons, nous, à Saint-Ferdinand, sont là depuis plusieurs années. Donc, en sachant qu'à l'école Saint-Ferdinand, le dispositif Ulysse est fonctionnel, on va dire, depuis 5 ans, mais avant, c'était une CLIS. Donc, ça fait 7 ans que ce dispositif est quand même inclus dans l'école. Donc, les familles sont parties prenantes. On est souvent l'enseignante Ulysse et souvent, justement, l'enseignante référente pour les parents. Et pour l'élève aussi, puisqu'il passe quand même une majeure partie de son temps dans notre dispositif.
Et alors, comment l'élève est détecté en amont pour savoir s'il va bénéficier de cet accompagnement?
Alors, c'est, en fait, compte, l'élève a un projet personnalisé. En fait, compte, il a déjà un suivi depuis très longtemps. Voilà. Et l'enfant, en fait, compte, au niveau de la MDA, il a été détecté au niveau de la MDA, effectivement.
Voilà, donc mise en place du projet personnalisé. Donc, ça veut dire des réunions qui sont...
Effectivement, dans l'année, nous avons donc souvent des réunions éducatives pour l'enfant et une ESS qui a lieu une fois par an avec l'institut référente de notre secteur.
Tout à fait. Alors, on peut peut-être préciser à nos auditeurs ce que veut dire ESS.
Équipe de suivi de scolarisation.
Merci beaucoup.
J'aimerais savoir comment on devient enseignante ASH, c'est comme cela que l'on dit. Alors, peut-être que Béatrice...
Je crois que lorsqu'on devient enseignante auprès des élèves qui sont les plus fragiles ou qui ont des singularités, ce n'est pas anodin dans notre parcours de vie propre. Je pense qu'on a une sensibilité, à fleur de peau, par rapport au regard que l'on peut porter sur ce jeune. Moi, je suis profondément marquée par la phrase de Marc, « Jésus le regarda et il l'aima ». Pour moi, chaque élève et encore plus ceux qui nous interrogent, parce que justement il faut rechercher, analyser pour pouvoir trouver des solutions pour l'amener à progresser, à croître. Ce jeune nous dit quelque chose d'une rencontre avec Dieu et je crois que c'est cette singularité qui est à l'œuvre en tout enseignant spécialisé encore plus.
Madame Bazin, avant d'accompagner ces élèves en situation de handicap, vous n'aviez pas ce parcours professionnel. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a motivé en fait à changer d'orientation professionnelle?
Eh bien, en fait, oui. Mon fils, je recommence. Donc oui, en effet, en 2008, mon fils a eu une névrose grave et a développé des TOC. Il était arrivé à 12 heures de TOC par jour.
Alors TOC, on peut peut-être spécifier ?
Des troubles obsessionnels compulsifs. Excusez-moi, troubles obsessionnels compulsifs. Il a très très vite, en deux semaines, il a très très vite été en dehors du parcours scolaire. Je me reprends parce que là, je suis... en 2008, mon fils a eu une névrose grave. Il a développé des TOC. Il était arrivé à 12 heures de TOC par jour. Je ne comprenais pas, je ne savais pas exactement ce que c'était. On a tous un petit TOC, mais arriver à 12 heures de TOC par jour, c'est très très compliqué à gérer. C'est dur à expliquer à l'enseignante puisque l'enfant devient très fatigué. L'absentéisme arrive très vite. J'ai consulté une pédopsychiatre. Et il a été déscolarisé suite à une équipe éducative. Il a été très très vite déscolarisé. J'ai adhéré à l'association française des TOC très rapidement. Il a été envoyé sur Paris et suivi par deux professeurs de la Salpêtrière et du CTH, le centre des troubles de l'anxiété et de l'humeur. Et j'ai dû arrêter mon travail, prendre une partie de mon activité à domicile et puis réduire à mi-temps. Ça c'était en 2008. En 2010, j'ai eu un licenciement puisque l'entreprise a été délocalisée dans le 95. Et lorsque j'ai voulu reprendre, mon fils a été scolarisé au collège justement Saint-Jacques-de-Compostelle. La rescolarisation s'est faite 3 ans après dans ce collège-là. Lorsque j'ai voulu, moi, reprendre une activité, tous mes entretiens, je l'ai raté. J'étais plus motivée, je m'en étais pas rendu compte. C'est ma conseillère Pôle emploi qui je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Je voulais savoir si les entretiens, si elle pouvait avoir des avis, en fait. Pourquoi je ratais mes entretiens. Et en fait, c'est lorsque j'ai discuté avec elle, j'ai compris toute seule que je refasse une reconversion et que je m'occupe des élèves en situation de handicap.
Alors aujourd'hui, peut-être des nouvelles de votre fils. Quel âge a-t-il maintenant et voilà, qu'est-ce que cette intégration dans le collège, cette école qui lui a permis de s'inclure, je ne sais pas si on peut dire comme ça.
Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de dispositif Ulysse, mais c'était l'ouverture du collège Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y avait, à mon souvenir, 123 élèves, je crois. Et en fait, même s'il n'y avait pas de dispositif, en fait, l'équipe a fait... en sorte que c'était comme un suivi, comme s'il y avait un dispositif. Il a été vraiment suivi. Son emploi du temps a été adapté. À l'époque, il y avait l'option équitation. On l'avait mis dans la classe équitation pour alléger son emploi du temps déjà. Et en fait, aujourd'hui, il va avoir 20 ans au mois de novembre. Il est en deuxième année de prépa, en Cagne, au lycée Blanche de Castille, à Auchesnay, à côté de Versailles. Et il termine premier de sa classe pour l'instant au niveau du rang.
C'est un très beau témoignage.
Merci. Beaucoup d'émotions autour de la table hein, qui prouvent que c'est un sujet quand même très très important et vital pour tous ces jeunes qui doivent participer dans nos établissements et être intégrés dans nos établissements. Béatrice, vous vouliez rajouter ?
Moi, je me disais que, en fait, cette circulaire concernant l'école inclusive produite par le ministère de l'Éducation nationale est un beau clin d'œil pour l'enseignement catholique parce que ça nous permet de nous rappeler nos racines et nos origines de nos établissements. Notamment nos fondateurs, les congrégations religieuses ou les prêtres. Et ces personnes, congrégations religieuses ou prêtres, ont su voir en leur temps les fragilités de leur temps. Et donc, cela va nous permettre de relire, de faire relecture de notre passé, mais peut-être aussi de faire une ouverture sur l'aujourd'hui et de regarder les fragilités qui ne sont pas prises en considération actuellement par nos établissements catholiques et de pouvoir œuvrer pour pouvoir justement répondre à ces singularités de l'aujourd'hui. Et puis, n'oublions pas qu'il n'y a pas de vie minuscule ni de vie majuscule. Il n'y a pas de hiérarchie de vie. Et l'exemple de votre fils est un à se rappeler.
Nous arrivons au terme de notre émission. Quelques mots à chacune de nos intervenantes pour conclure. Madame Quinte, est-ce que dans quelques années, il ne faudrait pas développer justement le nombre de dispositifs ULIS au sein de l'Eure-et-Loire ?
Alors, c'est ma volonté, c'est le travail de la commission besoins éducatifs particuliers. Nous avons encore du travail et les enseignants, les parents qui souhaitent avoir également des renseignements, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter à la direction diocésaine. Mais nous avons du travail et il y a encore fort à faire.
Merci Madame Quinte. Madame Marcadon, donc vous êtes enseignante sur le dispositif ULIS, on rappelle, sur l'école Saint-Ferdinand de Chartres. Votre conclusion ?
Ma conclusion, tout simplement, quel bonheur de travailler auprès de ces élèves. Ces élèves vous apportent à la fois sur votre pratique quotidienne un regard complètement nouveau et différent. Il faut savoir que ces élèves, avant tout, ont tous des troubles cognitifs. Et donc, il est vrai que de travailler avec eux nous apporte vraiment beaucoup de joie, tout simplement. Et de travail, certes, mais beaucoup de joie avant tout.
Une remise aussi en question des pratiques ?
Une grande remise en question des pratiques. Et c'est un petit peu encore, je dirais, ce qu'il faudrait travailler avec nos collègues des classes ordinaires. C'est avoir un regard autre que sur une classe unique et avoir plus d'élèves en situation de handicap, voire des élèves ULIS dans les classes pour changer sa pratique.
Merci beaucoup. Alors, Madame Bazin, le mot de la fin pour vous.
Eh bien, je reprendrai un petit peu comme ma collègue. C'est un réel plaisir d'être avec les élèves au sein du dispositif, en classe, de travailler des projets avec ces élèves-là et de voir qu'on peut les inclure dans la classe avec une préparation qui est toujours un petit peu plus particulière, plus approfondie, à savoir que en général, ils n'ont pas de travail à la maison. Tout se passe au dispositif, donc les projets, on les crée avec quand on les accompagne en classe et que on les voit s'épanouir, être fiers d'eux. Eh bien, je dirais que c'est gagné, c'est que du bonheur.
Oui, en plus, vous les suivez de la sixième jusqu'à la troisième,
oui,
donc vous les voyez se développer et grandir. Merci beaucoup.
C'est le moment maintenant de retrouver notre agenda. Alors, on va commencer, Corinne, par des petites informations d'une école.
Oui, tout à fait, Jean. Alors, c'est l'école primaire Notre-Dame à Jeanville. Sa directrice, Madame Céline Chauveau, nous informe que le jeudi 3 octobre, les élèves ont participé à la célébration de rentrée à l'église de Jeanville avec les collégiens et que cette célébration a été suivie par une bénédiction des cartables pour les élèves du primaire dans la cour de l'école avec le père Cornic. Le lundi 14 octobre, ce même père Cornic est venu intervenir dans les classes pour évoquer la Toussaint avec les élèves. Et puis, le 10 octobre, lors de l'Assemblée générale de l'Appel, les parents et les enseignants ont pu assister à une intervention sur la discipline positive. Et puis, entre le 14 et le 18 octobre, le 4 et le 18 octobre, les élèves de l'école vont découvrir l'exposition Naturellement Beauce à la médiathèque de Jeanville, regroupant diverses photos de la faune locale et une intervention pédagogique leur sera proposée par le photographe lui-même. Voilà pour cette école qui est très active.
Pour des nouvelles, ça c'est très gentil. Maintenant, une annonce.
Alors, une annonce. Le 15 novembre à 19h, à l'institution Notre-Dame aura lieu la remise des diplômes de l'ESCC, Enseignement supérieur catholique de Chartres, où plus de 100 étudiants de BTS, DCG et bachelor vont recevoir leurs diplômes.
Eh bien, pour nous, une école pour la vie, c'est fini pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain. Bye bye.